Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue à Montpellier. Nous sommes cette semaine à l'occasion de la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites qui se tient donc en ce moment dans cette ville du sud de la France. Alors je vous propose aujourd'hui de faire le point sur la prévention et le traitement des infections à VIH chez l'enfant. Vous savez que grâce à la mise en place de programmes de prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, de nombreux progrès ont été réalisés pour prévenir l'infection à VIH chez les enfants en Afrique subsaharienne. Cependant, encore aujourd'hui, des enfants sont exposés et leur prise en charge reste en fait assez compliquée, diagnostic parfois difficile, traitement pas toujours adapté. On estime qu'aujourd'hui 3 300 000 enfants sont porteurs du VIH-Sida dans le monde, plus de 90% vivent en Afrique subsaharienne et seulement un tiers de ces enfants ont accès au traitement. Alors pourquoi le dépistage et le traitement précoce est-il si important? Quel est l'impact du traitement de la mère sur la santé de l'enfant à naître? Peut-on éradiquer cette transmission mère-enfant? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, 4 médecins épidémiologistes autour de cette table, 2 du Nord, 2 du Sud, qui travaillent d'ailleurs tous sur la question au Sud. Docteur Valériane Leroy, qui est directrice de recherche INSERM à Bordeaux. Docteur Philippe Mselati, qui est directeur de recherche à l'IRD. Il est basé sur le site ANRS de l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun. Le docteur Mathurin Tedjokem, qui est chargé de recherche au centre Pasteur du Cameroun. Et le professeur Nicolas Méda, qui est directeur général du centre Muraz à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et bien sûr, si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Bonjour à tous les quatre. Merci vraiment d'être avec nous pour parler de ces enfants, de la prise en charge des enfants. Je voudrais qu'on commence avec une question d'un auditeur, Berthe, qui nous a appelé du Mali. Berthe, bonjour. Berthe, vous êtes en direct dans Priorité Santé. On vous écoute. Alors, on a un petit souci, on n'arrive pas à joindre Berthe, je ne sais pas ce qui se passe, on devait l'avoir en ligne. On va essayer de le joindre un peu plus tard. Professeur Nicolas Méda, avant de parler vraiment de la prise en charge des enfants, j'aimerais qu'on revienne sur cette prévention de la transmission mère-enfant. En quoi consiste ce qu'on appelle cette PTME?
Merci. La prévention de la transmission mère-enfant existe parce qu'il y a la transmission de la mère à l'enfant du virus du sida. Il faut...
C'est ça, il faut rappeler que c'est un des moyens de contamination du sida. Il y a le moyen sexuel, le sang et la transmission mère-enfant.
Il y a 3 temps, durant la grossesse, pendant l'accouchement et après, au cours de l'allaitement. Les 2 premiers temps concernent tous les pays, particulièrement le Nord, mais le 3e temps, qui est l'allaitement, est maintenant le problème des pays en développement. Et donc, dans les 2 premiers temps, on sait aujourd'hui qu'environ 25% des enfants acquièrent l'infection de leur mère pendant la grossesse et pendant l'accouchement. On rajoute 15% à cela pour donner à peu près 40% de transmission quand l'allaitement se surajoute à la grossesse et à l'accouchement. Et donc, globalement, il existe des enfants nés de mère infectée par le virus du sida, qui naissent sains. Et donc, vous comprendrez que c'est 75% dans les pays développés et c'est environ 60% dans les pays en développement qui naissent, malgré l'exposition à la maladie de leur mère, qui naissent sains et saufs de VIH.
C'est ça. En fait, maintenant, c'était la question de Berthe au Mali qu'on n'arrive pas à joindre, mais il avait une question, je crois qu'on ne l'a toujours pas en ligne, mais qui avait une question par rapport à ça. C'était lui, quand il dit, il est dans un village à 40 km de Bamako, et il dit, mais moi, quand je dis qu'on peut naître d'une maman séropositive sans être atteint par le VIH-Sida, on me dit que ce n'est pas vrai.
Oui, si. oui, on peut naître non infectieux parce que la transmission n'est pas totale.
Voilà. Mais en plus, il existe un traitement.
Il existe maintenant des stratégies. Il y a 2 grandes stratégies. Il y a ce qu'on appelle le groupe des B, où on donne de la trithérapie, 3 médicaments antirétroviraux à la mère pendant la grossesse et au cours de l'accouchement. Et on complète, en plus de cette trithérapie, une prophylaxie à l'enfant dans les 6 premières semaines de vie. Donc ça, c'est le groupe des B. Maintenant, il y a le groupe des A, où la mère et l'enfant prennent une prophylaxie avec un seul médicament, c'est à peu près ce que nous faisions dans les pays en développement jusque-là, jusqu'à juillet 2013 où les recommandations de l'OMS ont changé et recommandent à l'ensemble des pays de donner une trithérapie aux femmes infectées par le VIH dès la grossesse.
Et dans ces cas-là, le risque de transmission, il tombe à quoi ?
Dans ce cas, le risque de transmission tombe à moins de 5% et on frôle les 1-2%, donc comme là le cas des pays développés où l'élimination de la transmission mère-enfant est en marche.
Alors, Nicolas Méda, vous êtes à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Est-ce que cette prévention de la transmission mère-enfant, ça marche ? Est-ce que ça se met en place ? Est-ce que c'est effectif ou compliqué ?
Oui, nous sommes fiers de dire que nous étions à l'avant-garde de cette prévention de la transmission mère-enfant. Un de mes collègues, Philippe Mselati, Valériane le rappelait, c'est dès 1994 qu'a démarré le premier essai de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en Afrique, donc en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ça s'appelait l'essai DITRAM, diminution de la transmission mère-enfant. Et donc nous avons commencé cet essai à la suite des résultats américains et français montrant que l'AZT, l'azidovudine, réduisait de 68% le risque de transmission mère-enfant. Mais nous avions jugé que ce schéma de l'époque était trop compliqué d'application dans les pays en développement. Et donc, nous avons proposé un schéma court à base d'AZT. De 1994 à 1998, nous avons montré que ce schéma pouvait réduire d'environ 40% le risque de transmission mère-enfant.
Mais aujourd'hui, sur ce qu'il faudrait faire, est-ce que ça marche à Bobo-Dioulasso ? Est-ce que vous arrivez à le mettre en place ? Ou en fait, c'est compliqué d'aller toucher les femmes dans des zones reculées ?
Les programmes ont deux situations très différentes. Il y a les zones urbaines où les programmes sont mis en place et ça marche à peu près. Il y a les zones rurales où réellement l'accès au dépistage est un problème dû à l'absence des intrants, c'est-à-dire les tests, les seringues et de la capacité de dépistage.
Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est dû au fait que les femmes ne vont pas dans les centres de santé pour faire suivre leur grossesse, essentiellement d'ailleurs à cause du coût du suivi de sa grossesse, pas parce qu'elles n'ont pas conscience qu'il faut aller se faire suivre, mais plutôt à cause du coût du suivi de la grossesse ?
La réponse est non. Le suivi de la grossesse en Afrique est un succès. Aujourd'hui, on a près de 80% des femmes au moins qui font au moins une visite prénatale. Ce qui ne marche pas, c'est l'accouchement dans les formations sanitaires. Sinon, si vous regardez...
Attends, je vois quand même Philippe Mselati qui fait un peu non-non de la tête. Il n'est pas convaincu tout à fait
de suivi de la grossesse
aussi efficace que ça.
Au moins 80% font au moins une consultation prénatale. Le problème en Afrique, c'est l'accouchement dans les formations sanitaires. Ça, c'est
Philippe Mselati, une chose certaine pour moi. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous travaillez depuis plus de 20 ans en Afrique. Vous connaissez bien le continent africain. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Cameroun.
Oui, je ne suis pas tout à fait convaincu parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Et on le voit bien dans la situation du Cameroun qui est un peu exemplaire dans ce schéma-là. Si vous interrogez les femmes, 80 à 85% des femmes disent « Oui, moi, j'ai été suivie pendant ma grossesse. » Très bien. Si vous regardez le programme national du Cameroun de la PTME, qui est mis dans 95% des structures de santé officielles publiques du Cameroun, donc la décentralisation de la PTME a eu lieu, il n'y a que 40% des femmes qui sont dans ces CPN-là. Cameroun, oui, le Cameroun est une situation peut-être particulière. Et donc, il n'y a que 40% des femmes qui vont dans ces CPN-là. Qui vont dans ces consultations prénatales-là et qui ont accès à la PTME. Et il y a 50 à 60% des femmes au Cameroun qui sont convaincues, et de bonne foi, qu'elles ont été suivies pendant leur grossesse, ça, elles savent quand même. Mais elles ne sont pas dans des sites PTME. Et du coup, prévention, transmission mère-enfant. Et du coup, on va avoir un déficit permanent de la prévention, transmission mère-enfant qui ne peut pas physiquement atteindre plus de 50 à 60% des femmes puisqu'elles ne viennent pas à l'endroit où il y a de la PTME. Alors, c'est une situation différente du Burkina.
Vous vouliez rajouter un mot, Valériane Leroy, peut-être pour la Côte d'Ivoire, sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a les mêmes difficultés ?
Oui. Enfin, en Côte d'Ivoire, on a une bonne fréquentation des consultations prénatales. Et donc,
On a un petit problème de micro avec vous. Je vais vous passer le micro de Nicolas Méda. Non.
En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc, on a une bonne fréquentation des consultations prénatales, avec plus de 80% des consultations prénatales, donc une bonne opportunité de pouvoir faire du dépistage et proposer des interventions aux femmes. Ceci dit, il y a quand même des difficultés opérationnelles qui font qu'aujourd'hui, dans la réalité, la mise en œuvre opérationnelle des interventions de prévention de la transmission mère-enfant avec les antirétroviraux n'est pas toujours effective. Et on a une difficulté que je voudrais juste rajouter sur ce qu'a très bien expliqué Nicolas Mida précédemment, sur les modalités de transmission, de la transmission mère-enfant, c'est que si on a des interventions qui vont être ciblées au moment de l'accouchement pour réduire cette transmission mère-enfant à moins de 5%, ce qui sont des résultats effectivement efficaces aujourd'hui, la question qu'on se posait et qui a parfaitement légitimé
la stratégie
et puis le fait qu'on fasse des recherches dans les pays du Sud, parce qu'on nous a dit à un moment, mais c'est inéthique de faire de la recherche sur la prévention de la transmission mère-enfant parce qu'on a déjà la solution dans les pays du Nord. Et un des problèmes qui légitimait justement qu'on fasse une recherche sur cette question-là, c'est la pratique de l'allaitement maternel, qui est une pratique régulière en Afrique, où on sait que l'allaitement maternel transmet et est un risque d'annuler l'effet des interventions qui ont été proposées en amont pendant l'accouchement. Et on risquait, dans un contexte où c'est pas facile d'offrir des interventions, de perdre l'effet et le bénéfice des interventions faites pendant la grossesse et l'accouchement. Et ça méritait tout à fait qu'on fasse des recherches pour analyser cette efficacité.
Et vos études, en fait, ont prouvé que si la femme est sous traitement, du coup, il n'y a pas de transmission pendant l'allaitement. C'est ça, en gros?
Alors, si elle est traitée pendant l'allaitement, oui, en tout cas... ça la réduit, mais les interventions ne sont pas 100% efficaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un problème. Et quand on parle d'élimination de la transmission mère-enfant, c'est bien, c'est un défi, c'est un objectif, c'est un slogan, mais sur le terrain, on est loin de la réalité.
Et si vous voulez bien, donc aujourd'hui, on va pas revenir sur cette prévention de la transmission mère-enfant. C'était important qu'on parle et qu'on explique du comment ça fonctionne, mais on va parler maintenant de la prise en charge des enfants qui restent infectés. Nicolas Méda, je sens que vous vouliez rajouter un mot.
Je voulais rajouter quelque chose par rapport aux problèmes structurels des systèmes de santé qui font que la PTME ne fonctionne pas un peu partout comme ça devrait le faire. Effectivement, la plateforme est que c'est le système public qui a surtout été intéressé par les programmes de PTME. Mais dans les systèmes de santé, il y a aussi le système privé qui fait partie du système, qui effectivement fait intervenir les personnes les plus nanties, mais globalement, l'ensemble d'un système de santé d'un pays comprend...
Et cette prévention de transmission de mère-enfant, elle n'est pas dans le privé, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Justement, ça doit être cela le cas du Cameroun, où beaucoup de femmes consultent le système privé au lieu du système public.
Et on va parler, si vous voulez bien, maintenant de la prise en charge des enfants.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous sommes à Montpellier à l'occasion de la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites. Aujourd'hui, on parle de la prévention et du traitement des infections à VIH chez les enfants. Docteur Mathurin Tedjokem, j'ai l'impression que je vous ai coupé la parole et que vous aviez quelque chose à rajouter.
Oui, effectivement, sur la prévention de la transmission mère-enfant, je voudrais ajouter quelques éléments pour compléter ce qui avait déjà été dit par les autres intervenants. Très clairement, on voit que au niveau de l'Afrique, et plus particulièrement dans le cas du Cameroun, les stratégies qui ont été développées dans le cadre des essais cliniques, on voit que ces stratégies marchent même en opérationnel dans notre contexte. Une évaluation que nous avons faite dans les sites de référence, les hôpitaux de référence, qui appliquent ces stratégies, montre qu'on peut tomber très rapidement en dessous de 5% de transmission. Donc la grosse question se retrouve au niveau du redéploiement de toutes ces stratégies au niveau. On sait ce qu'il faut faire maintenant. Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre tout cela en place sur l'étendue du territoire avec une bonne décentralisation, un bon suivi et une bonne coordination de toutes ces activités.
Docteur Valériane Leroy, vous l'avez dit, hein, donc l'objectif c'est d'éliminer cette transmission mère-enfant, mais de fait il y en a encore, des enfants qui sont infectés. À partir de quel âge finalement on arrive à diagnostiquer le VIH sur un bébé? Est-ce que ce diagnostic est compliqué à faire?
Oui, alors, C'est une très bonne question. Le diagnostic est effectivement très compliqué à faire chez un enfant jeune. Et on a besoin d'outils virologiques pour mettre en évidence directement le virus chez des enfants qui ont moins de 18 mois. Et on peut le mettre en évidence de façon, aujourd'hui, on a des techniques virologiques qui permettent d'identifier cette infection virale chez les enfants dès 4 à 6 semaines, donc à partir de 1 mois de vie. Et c'est très important, ce diagnostic précoce est très important parce que il est clé pour pouvoir commencer un traitement précoce ensuite, dont on sait qu'il va améliorer significativement la survie des enfants. Donc ce diagnostic, il est virologique, on sait le faire, mais il est compliqué.
Et il est disponible sur le continent
africain ?
Il n'est
pas forcément disponible. Il est disponible dans certains sites. Il est plutôt centralisé dans des laboratoires qui ont des plateformes d'analyse virologique un peu compliquées. Et donc, on ne peut pas le décentraliser aujourd'hui comme ça sur les sites. En revanche, on a des possibilités d'utiliser sur les sites ce qu'on appelle des tests diagnostiques rapides qui permettent chez des petits bébés de voir et d'identifier les anticorps portés de la mère, enfin leur exposition aux anticorps. Et là, on sait que c'est des enfants qui sont exposés au risque de transmission. Mais ça ne permet pas de faire le diagnostic. Et sur ces techniques diagnostiques qui sont faciles à utiliser, on est obligé d'attendre l'âge de 18 mois chez des enfants pour l'utiliser et confirmer le diagnostic. Et avant 18 mois, ce que l'on mesure, ce que l'on risque de mesurer, avec le risque de porter à tort un diagnostic d'infection chez un enfant...
Donc de le mettre sous traitement à tort.
Et de le mettre sous le traitement à tort, c'est en fait, on risque de mesurer les anticorps de la mère. Et donc, il faut... Avant l'âge de 18 mois, il faut vraiment utiliser ce diagnostic virologique qui est difficile à faire, qui est plutôt centralisé, où aujourd'hui on essaye d'utiliser des techniques qui permettent de le faire à distance en utilisant des méthodes de papier buvard. Pour essayer de le rendre disponible à l'échelle et à l'échelle de la population.
Ça veut dire quoi, ça, concrètement? On le fait sur un papier buvard, le papier buvard est envoyé après dans la capitale, c'est en
exactement,
gros,
c'est... dans un laboratoire où il va être techniqué, et là, il va y avoir tout un délai et des problèmes structurels qu'évoquait Nicolas Méda tout à l'heure, de comment est-ce qu'on va faire ce diagnostic, comment est-ce qu'on va le mettre sur papier buvard, comment est-ce qu'on va le transporter au laboratoire, quand est-ce qu'il va être techniqué, avec quels intrants et quels réactifs, quand il va être retourné au site, quand est-ce qu'on va convoquer la famille ou que la famille va revenir pour reprendre le résultat du test, être informé et digérer le statut de l'enfant s'il est infecté et lui permettre un accès. Et donc on voit bien que là il y a toute une chaîne opérationnelle qui est très
si
compliquée
simple.
Et sur le terrain.
Et on va voir justement ce qui se passe au Burkina Faso et au Cameroun. Nicolas Méda, au Burkina, ça se passe comment? À Bobo Dioulasso, ce test qu'on peut faire dès 6 semaines, il est disponible?
C'est exactement ce que je voulais ajouter pour compléter, pour donner un ordre de grandeur de la difficulté d'accès des enfants à ce diagnostic virologique. Le centre Muraz a eu l'opportunité, avec le programme national de lutte contre le sida au Burkina, de couvrir l'ouest du Burkina. Environ 3 millions de personnes sont couvertes par cette possibilité de diagnostic virologique sur papier buvard, à partir du sang collecté sur des papiers buvards. Et de 2010 à 2012, en 2010, nous avons pu estimer environ une couverture d'1% des enfants pour ce diagnostic virologique.
1%.
On est monté à 6% en 2011 et en 2012, on était à 10%. Pour dire à peu près que
c'est compliqué.
Les enfants n'ont pas accès au diagnostic virologique.
C'est important de le dire. Et qu'est-ce qui se passe, docteur Tedjokem, au Cameroun?
Oui, effectivement.
C'est la même chose
que... Au Cameroun, on a les mêmes problèmes. On a une organisation qui est un peu plus concentrée avec les laboratoires qui sont dans les capitales. Il y en a à Yaoundé, deux. Et puis un autre qui est en région périphérique à Moutenguéné. Donc ces sites, ils fonctionnent, mais seulement on se rend compte que finalement les enfants n'ont pas accès. Donc il faut aller peut-être. C'est un peu lié à ce que Philippe disait tantôt, déjà que les mamans ne fréquentent pas tellement les structures.
Et aller
de
vers
santé.
Les enfants.
Et ensuite, il faudrait trouver les moyens d'aller vers les enfants.
Si vous voulez bien, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de cette prise en charge des enfants. On reviendra sur le diagnostic et les traitements.